J'avais jamais lu sérieusement un texte d'Abravanel. Abravanel était intéressant parce que, de par le contexte de sa vie, par rapport au sujet de la politique et de la royauté, on connaît tous un peu Abravanel, le conseiller des rois, etc., mais le financier. Du coup, je me suis un petit peu penché, je vous ai mis la Wikipédia, hein, pardon pour les savants, mais j'ai mis Wikipédia. Ça donne un peu une idée. Et c'est quelqu'un qui a été très très qui a beaucoup de réussite dans le domaine financier et qui a été le conseiller de roi et de prince, et donc qui a pu connaître de l'intérieur ce que c'est la monarchie et d'autres systèmes qu'il a eu à son époque de la Renaissance. Il a démarré au Portugal, il a dû fuir le Portugal parce qu'on l'avait accusé, il a été condamné à mort, il s'est enfui. Et j'ai lu qu'en fait, il a écrit tout son commentaire sur Nevim Rishonim. Donc ça veut dire, je ne sais pas, il y a combien de farine dedans. Ah oui, ça c'est ce qu'on me... C'est le reproche classique. J'ai lu qu'il avait écrit tout son commentaire sur le Nevim Rishonim, donc toute cette partie-là du Tanakh, en 30 jours. En 30 jours, alors qu'il était en fuite du Portugal, alors qu'il arrivait en Espagne. Il a dit si ces malheurs m'arrivent, c'est parce que je me suis trop occupé des affaires de ce monde et je me suis pas assez occupé d'étudier et de transmettre la Torah. Et donc il a pris sur lui de commencer à écrire. Il a écrit le commentaire sur Yehoshua, je crois, en 15 jours, sur Melachim Aleph en 30 jours. Enfin, il a écrit ça en 4 à 5 mois. Il a écrit tout Nevim Rishonim et le commentaire sur Shmuel, pardon, qu'on va étudier. Ce que j'ai découvert chez Abravanel, c'est que d'une part, il est très très organisé dans son commentaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression de lire une copie de philosophie avec thèse, antithèse, synthèse. Alors, c'est clair. C'est facile de mettre des titres de chapitres. On voit tout de suite, et même il le dit, hein, je vais commencer par parler de ça, ensuite je parlerai de ça, et enfin je parlerai de ça. Donc on voit tout de suite, on a sa pensée. Par contre, le côté un peu lourd, c'est qu'il est très lourd. Il manquait pas de papier, quoi. Il écrit. Si quelqu'un pouvait prendre sur lui, de dire je prends un Abravanel et je le résume, ça pourrait rendre service. Et donc évidemment je ne pourrais pas tout lire, je ne sais même pas si je vais lire un morceau parce que c'est vraiment long. Et ce que j'ai fait pour aider à la lecture, c'est que j'ai mis sur les marges à chaque fois l'idée qui est développée dans le texte qui démarre par la partie qui est surlignée. C'est comme ça que j'ai fait. Et donc comment est-ce que son commentaire sur Shmuel est organisé? Il commence par une question en vérité, une question que Avit n'a pas mentionnée clairement parce qu'elle était tellement évidente que tu l'as pas dite. C'est finalement pourquoi Shmuel s'énerve. Qu'est-ce qu'il y a dans Shmuel? Pourquoi Vayera ben Shmuel? Pourquoi est-ce que Shmuel, ça lui paraît mauvais ce qui se passe? Alors qu'en fait, ils sont juste en train de reprendre des mots qu'il y a dans la Torah. Sima lanu melech les chauffetez nous. Alors qu'il y avait écrit Asim alay melech qui chola goyim. Ils ont pris les mêmes termes. Donc qu'est-ce qui ne va pas dans la demande? En plus, c'est les Ékénimes qui viennent. On ne parle pas du peuple, ce sont les anciens qui viennent demander à Shmuel de leur mettre un roi. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette demande qui fait que ça ne lui plaît pas? Alors soit on dit qu'en fait, la mitzvah de mettre un roi, c'est une mitzvah qui est top, c'est super, et donc du coup, il va falloir comprendre qu'est-ce qui n'a pas été dans la demande des bénis Israël à ce moment-là. Ou bien, hein, il va falloir qu'on comprenne différemment comment la mitzvah qui était dans la Torah. Donc, comment est-ce que Abravanel organise son commentaire? Il commence par rapporter tous les avis connus qui lui préexistaient sur cette contradiction. Pourquoi est-ce qu'on a cette contradiction? Et tous les avis qui lui préexistaient, c'était des avis qui essayaient d'expliquer c'est une vraie mitzvah de nommer un roi. Et donc, qu'est-ce qui n'allait pas chez Shmuel? Qu'est-ce qui n'allait pas? Donc, il va les citer un par un. Et à chaque fois, par force de psukim ou de logique, il va démontrer pourquoi, selon lui, ces réponses ne vont pas. Et ensuite, il fera deux introductions avant d'amener sa propre réponse. Les introductions, ça sera est-ce que c'est nécessaire d'avoir un roi, Birkla, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un roi pour que un pays puisse vivre de manière en sécurité, de manière prospère. Deuxième introduction, ça va être et même si je dis que c'est nécessaire qu'il y ait un roi pour tout le monde, est-ce que pour Israël c'est pareil, ou est-ce qu'on est spéciaux et du coup ça veut dire que pour nous il n'y aurait pas besoin de roi. Et une fois qu'il va démontrer, comme on s'y attend, qu'il n'y a pas besoin de roi, et ben il va devoir expliquer pourquoi il y a la mitzvah de nommer un roi. Et ça sera la conclusion de son commentaire. Pourquoi est-ce que finalement il n'y a pas besoin? Donc il va falloir expliquer ça par rapport au psukim, par rapport à toutes les preuves qu'on va devoir apporter. Donc j'ai mis tout le commentaire, donc, je sais pas, j'ai 8 pages je crois. Je vous propose de passer à la page 6. En haut à droite, Adat Arishon. Donc ça, il va citer 6 avis qui ont été rapportés et qui essayent d'expliquer pourquoi Shmuel, pour lui, c'était mauvais ce qui se passait, alors qu'en fait, il faisait juste que demander un roi, comme la Torah l'avait mentionné. Le premier avis qui est rapporté, c'est dans le Sifri, dans le Midrash. Le Midrash dit que, en fait, derrière cette demande, il y avait quelque chose de caché. C'était qu'en fait, en vrai, ils voulaient un roi qui puisse leur permettre de s'adonner à l'idolâtrie. Et c'est ça qui ne plaisait pas aux yeux de Shmuel. Abrabanel réfute cette lecture, parce que sinon, Aïkar Hasser Minasefer, si vraiment le problème c'était l'idolâtrie, pourquoi il n'en est pas mention une seule fois dans le Sefer Shmuel? Pourquoi il n'y a pas un seul moment où Shmuel, quand il fait les reproches, il devrait leur dire, ce qui va pas, les gars, dans votre demande, c'est que, en fait, j'ai bien compris ce qui se passe derrière vous, c'est que vous voulez faire de l'idolâtrie. Il n'y a pas ça. Ni ça, et d'ailleurs, et ensuite, même à la suite des versets que Avi a rapportés, on en reparle encore. Et on a l'impression que le seul problème, c'est qu'ils aient demandé un roi. Si vraiment c'était un problème d'Avod Hazara, on aurait dû le mentionner. Et Abrabanel, vu que c'est quand même Chazal, faut quand même qu'on explique ce Chazal, c'est quand même des sages qui disent que c'est un problème d'Avod Hazara, il va expliquer qu'en fait, c'est une image. Finalement, vous voulez un roi. Si vous voulez un roi, c'est qu'en fait, vous voulez plus de chauffette, vous voulez plus de moi, vous voulez plus de Shmuel, vous voulez plus d'un avis comme moi, comme Shmuel. Si vous voulez plus d'un avis, quelque part, vous voulez vous éloigner de la direction qui était directement faite depuis Dieu au travers de Shmuel. Donc quelque part, vous voulez mettre un écran. Cet écran, c'est une sorte de d'Avod Hazara. C'est un début d'Avod Hazara, on va dire. C'est comme ça qu'il va expliquer ce Sifri, mais en tout cas, lui, il dit, ça rentre pas dans les Tsukim, j'ai un problème avec ça. Deuxième avis qui est rapporté, et c'est aussi un enseignement des sages, c'est que en fait dans le Sefer Shmuel il y a deux fois la demande, elle est faite deux fois. Elle est faite la première fois, c'est celle que Avi a lu tout à l'heure, c'est qu'ils disent, alors si je relis le pasouk, le début là dans la page 1, va être Kab Sukol Zikni Israël Vayavu El Shmuel. Donc ce sont tous les Zekenim, ce sont les anciens qui sont venus voir Shmuel et qui lui demandent, ils lui disent Sima Lanu Melech les Shoftenu Kechol HaGoyim, mets place sur nous un roi pour nous juger comme tous les peuples. Cet enseignement de Chazal dit jusque là tout va bien. Ce qui va pas, c'est qu'une fois que Shmuel va leur dire tout ce qu'on a lu tout à l'heure en disant si vous mettez un roi, il va prendre vos enfants, il va vous mettre dans les cuisines, il va vous faire courir devant ses chevaux. Juste après ça, on l'a pas lu, il n'y est pas, mais le peuple, là du coup c'est plus les Zekenim, c'est le peuple qui réagit et qui dit tu sais quoi, non, on veut quand même un roi. D'accord. Et j'ai plus la formulation, comment ils le disent. Et donc il dit que c'est ça qui va pas. Le Midrash dit que c'est ça qui va pas, c'est qu'au début, les Zekenim, les anciens, ont demandé correctement. Et puis quand c'est le peuple qui vient et qui demande, eux, ils demandent pas correctement parce qu'en fait, finalement, ils... Donc ça serait un problème, finalement, de forme, pas de fond. Dans le fond, c'est une mitzvah de demander un roi, ils ont bien fait. Ce qui va pas, c'est la manière dont le peuple a demandé, qui était Alors, il y a plusieurs manières de voir, donc en tout cas, il y a un problème de forme. Voilà. Je ne sais plus si la Bravanel le dit ici, mais il y a une question qui est évidente. C'est que quand il écrit Vayera Adavar Ben Ishmoël, c'est déjà au début. Donc, à moins qu'on dise que de toute façon, c'est un avis, il savait ce qui allait se passer après. Mais en tout cas, au moment où ça ne lui plaît pas, c'est déjà dès le début. Et puis même, en réalité, même le peuple, quand il va parler, il n'y a rien de foncièrement mauvais dans ce qu'il dit. Finalement, il reprend aussi la notion d'être jugé et régné par un roi comme les autres peuples. Ce qui, finalement, ils ne font que paraphraser la Torah. Le troisième avis qu'on a vu, c'était Rabbeinu Nissim, qu'on vient de voir en dernier avec Avi, qui est, en fait, finalement, il y a un mélange des genres, puisque dans la Torah, il y a écrit Asima alai meler kechol agoyim, et eux, ils disent Sima alanu meler les chauftenu kechol agoyim, ils ont rajouté un mot. Ils ont rajouté les chauftenu. Dans la Torah, il y a écrit Asima alai meler kechol agoyim, et eux, ils ont rajouté le mot les chauftenu. Donc là-dessus, le Ran rebondit et dit bah, le problème qui se passe à l'époque de Shmuel, c'est qu'ils ont rajouté le mot les chauftenu. Et ça, c'est pas bon, parce que un roi s'est fait pour régner. Et un juge s'est fait pour juger. Mais à partir du moment où il y a un roi qui se met à juger, ça ne va pas. Et donc c'est ça qui ne plaisait pas aux yeux de Shmuel. Et le problème, encore une fois, c'est que dans le reproche de Shmuel, ça n'apparaît pas. Et même, en vérité, même le peuple, quand à la fin, il refait sa demande, ils disent « Venilcham, minchamotenu » qu'il fasse notre guerre. Donc on voit vraiment qu'il cherche un roi, qu'il y ait un vrai roi, quoi. Voilà, donc ça c'est la réputation d'Abraham, elle repose sur le fait que les psukim ne font pas mention de ce problème-là dans le reproche même de Shmuel. Au passage, je note que, je ne sais pas, Abraham, s'il y a vraiment des connaissances d'Abraham, mais il avait quelque chose contre le Radak, contre Rabbi David Kimri, je ne sais pas pourquoi, mais il n'en parle pas de manière très... très élogieuse. Ici, là, je l'ai souligné parce que il en parle. Il dit, Rabbi David, il dit Vechen à ça. Donc c'est le deuxième surlignage que j'ai fait là dans la colonne de gauche. Vechen à ça, Rabbi David Kimchi les kabetz adéot kulam les chosvam les himalet vazem asfikot. Il dit, et c'est Rabbi David Kimchi, il a essayé d'assembler le plus d'avis possible pour essayer de, en gros, un nuage de fumée pour essayer de faire croire qu'il n'y a pas de problème. Bon, c'est juste une parenthèse parce que un petit peu plus tard, on va voir qu'il ramène un autre avis. Et par contre, à cet autre avis, on verra qu'il fait une grande place et beaucoup d'éloges. Le quatrième avis, c'est celui du Ramban. Et là aussi, c'est pas un problème de fond parce que finalement, la mitzvah d'un roi, c'est une vraie mitzvah. Il faut demander un roi. On a vu que le Ramban dit même qu'il y a une mitzvah de demander un roi. Il faut demander un roi et il y a une mise à de nommer un roi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez Shmuel? Ce qui ne va pas, c'est qu'en fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que Shmuel est encore vivant. Alors, on ne va pas demander, alors que c'est lui qui était le dirigeant, on ne va pas lui demander, nomme-nous quelqu'un quelque part à ta place. C'est pas joli. C'est ce qui ne va pas. Il rapporte que c'est quelque chose qu'il a aussi trouvé dans les écrits des chrétiens. Et c'est quelque chose d'intéressant chez Abraham parce qu'il avait une connaissance des commentaires chez les goyim, il avait une connaissance aussi de tout ce qui est philosophe, des philosophes, comme on va voir un petit peu plus tard. Ce qui fait qu'il avait des connaissances assez larges, même en dehors de la Torah. La réputation, c'est toujours la même. Hein. La réputation du Abravanel, c'est on s'en tient au psukim, on s'en tient à ce que Shmuel a reproché au peuple. Si on s'en tient au psukim à ce que Shmuel a reproché au peuple, il n'est ni par mention d'un manque de respect auprès de Shmuel. Et donc, c'est de cette manière-là qu'il refute. Et il va poser, une fois qu'il a rapporté déjà ses premiers avis, il va déjà poser encore une autre question. Qui est, si vraiment il y a une mitzvah de nommer un roi dès qu'on arrive en Israël, comme on a dit Kitavo et l'Aretz, pourquoi est-ce que immédiatement, quand on est rentré en Israël, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dû tout de suite nommer un roi? Si vraiment c'est une mitzvah, et si vraiment il faut le faire, Pourquoi Yahushua ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre tous les Shoftim et d'arriver, t'as compté 300 ans, avant qu'on nomme un roi? On aurait dû le faire tout de suite. Si vraiment c'est une mitzvah, c'est une belle mitzvah, il faut le faire.
Vous avez une question pour le bataminage?
Est-ce que dans Malek écrit qui t'avoue à l'arrêt?
C'est parti des trois mitzvahs qui ne sont pas appropriées à faire.
On peut répondre à cette question, mais disons que une question c'est un indice. On va garder l'indice pour l'instant. Et maintenant il rapporte un avis. Alors c'est aussi ça m'a donné l'opportunité de faire des recherches. Il y a un certain Don Pavilo Agmon. Alors, il s'agit de...
Page 7,
ouais, je suis page 7, pardon. Page 7, Dat Ramifi, la cinquième avis qu'il rapporte, c'est Don Paolo, de Burgos. Alors moi, je ne connaissais pas, mais moi, je suis, en même temps, je ne suis pas du tout une référence. Mais c'est... Donc du coup, j'ai découvert que c'était un rabbin, que c'était Rabbi Shmuel Halevi, qui était rabbin de la ville de Burgos, et qu'il a fait partie des conversions forcées de 1391 en Espagne. Et que...
Forcé.
Bon, voilà. En tout cas, il y avait une vague. Après, il y a un débat, est-ce que c'était forcé, pas forcé. Apparemment, il aurait même joué un rôle lors de l'expulsion des... Non, lors de l'Inquisition, enfin, je ne sais pas. Mais...
Il va y avoir des disputations, oui. Il était présent à l'arrière.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Abravanel lui laisse une place. C'est énorme. C'est-à-dire que ça démarre ici, là. Vous avez la page là sur la page 7, Don Paolo Agmon. Mais ça continue encore. Il y a une, deux, trois colonnes. C'est-à-dire que pour le Ran, il a fait. Oui, parce que il était déjà mort. Pour le Ran, c'était 10 lignes. Et pour Paolo Agmon, c'est il y a combien? Et ce qui est marrant, c'est que non seulement il rapporte son avis avec beaucoup de respect, il l'appelle le Chacham, et en plus il va apporter des arguments pour aller dans son sens.
Il avait déjà
géré
sa cuisine,
Il était déjà mort.
Il était déjà mort.
Abraham est né une fois qu'il était déjà mort. Alors, franchement, je ne sais pas pourquoi. Ce que dit Don Paolo, surtout que moi je pense qu'on aurait pu le résumer vraiment en trois lignes, ce qu'il dit. Mais bon, ce qu'il dit, c'est que en fait il y a, c'est quoi la différence entre un bon roi et un mauvais roi?
Un bon quoi?
Un bon roi et un mauvais roi. Il dit qu'en fait il y a des bons rois, et il y a des mauvais rois. Le bon roi, c'est celui qui va suivre les mitzvot de la Torah. C'est celui qui va se plier aux lois de la Torah. Et puis il y a celui qui va appeler le tyran, qui va s'octroyer les pleins pouvoirs et qui va faire comme bon lui semble et qui va être finalement mauvais pour son peuple. Donc ce que dit Don Paolo, c'est que pourquoi Shmuel il n'était pas content, c'est parce que quand ils sont venus le voir, ils n'ont pas demandé un roi qui soit bon pour eux, un roi qui soit bon dans le sens qui respecte la Torah, mais ils lui ont demandé un roi qui allait être un tyran. Ils n'ont pas demandé le bon type de roi, ils ont demandé le mauvais type de roi. Et c'est pour ça que ça ne lui plaisait pas. D'ailleurs, on peut peut-être comprendre aussi derrière pourquoi derrière, après, Shmuel il leur a dit « Mais attention, le roi, il va vous prendre vos enfants, il va faire ça, il va faire ça. » Donc ça, c'est la théorie de Don Paolo. Et Abravanel dit « On peut même... » abonder dans le sens de Don Paolo en disant que finalement on voit bien que Shaul c'était pas un bon roi, puisque à plusieurs reprises Shmuel a dû le remettre en place, et qu'ensuite il y a eu David, et qui lui David était un bon roi, et à lui on a donné la royauté éternelle. Mais malgré tout, donc je passe à la page 8, malgré tout ça lui plaît pas. C'est que quand Shmuel leur fait les reproches, encore une fois, il leur dit ce qui ne va pas, c'est que vous avez demandé un roi. Il ne précise pas un roi. Si vraiment c'était le fait qu'il demandait un roi mauvais, il aurait dû dire « Ce qui ne va pas, c'est que vous avez demandé un roi mauvais. Il fallait rajouter un mot. » Il a dit vous avez demandé un roi. C'est ça qui ne me plaît pas. Donc, si vraiment la théorie de Don Pablo était bonne, ça aurait été vraiment bien que Shmuel rajoute un mot, qu'il dise « Vous avez demandé un roi mauvais. » Deuxièmement, il y a quelque chose qui ne va pas d'un point de vue logique. C'est que, comme on l'a vu avec Avi tout à l'heure, c'est que les Ékénim, les anciens, viennent voir Shmuel. Pourquoi est-ce qu'ils viennent le voir? Parce qu'ils lui disent « Tes enfants ne sont pas comme toi. » Donc ils sont en train de dire « Tes enfants n'ont pas suivi ton chemin. » Et d'ailleurs là-bas on dit ils prennent le shochad, ils prennent les pots de vin, ils n'ont pas ta droiture. Donc ils viennent chercher quelqu'un, ils viennent chez Shmuel parce que les enfants qu'il a placés à sa place ne sont pas aussi droits que lui. Alors comment comprendre que tout d'un coup ils viennent demander un roi qui va être pas droit? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et à part ça, si vraiment ils voulaient nommer quelqu'un comme eux voulaient et pas comme Dieu voulait, alors faut pas aller voir le Navi. On le fait tout seul. On peut nommer tout seul. C'est pour toutes ces raisons qui réfutent la théorie de Don Paolo. Il y a un sixième avis qui rapporte rapidement au passage, qui rapporte au nom des chrétiens, qu'en fait ce qui allait pas, c'est qu'ils ont demandé à Shmuel directement « nomme un roi », alors qu'ils auraient dû demander à Shmuel « demande à Hachem de nommer un roi ». Mais bon, ça c'est pas une réponse qui est... C'est pas les bâtis, je crois. C'est pas une bonne réponse, parce que quand on va voir le Navi, en fait, on sait très bien que c'est parce qu'on veut se plier à ce que Dieu va lui dire. Donc on réfute rapidement. Une fois toutes ces réfutations faites, Abravanel dit « moi j'ai un problème » et il dit « je pense que la raison pour laquelle tous ceux qui m'ont précédé ont foncé dans le mur, c'est parce que pour eux c'était évident qu'il y a une vraie mitzvah d'avoir un roi. Mais si je change de paradigme, alors à ce moment-là peut-être que je pourrais avoir un autre regard sur ce qui se passe dans la Torah. » Et donc il va faire deux introductions qui s'appellent Adibour Arishon et Adibour Hasheni. Le premier Adibour, c'est la monarchie est-elle nécessaire? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un roi en général? Et le Adibour Hasheni, ça sera comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que pour les juifs, on a aussi besoin d'un roi? Est-ce que c'est aussi bon pour les juifs d'avoir un roi?
Le premier, c'est dans l'absolu.
Dans l'absolu, pour quelle que soit la société, est-ce que finalement le système monarchique, c'est un bon système de gouvernement? Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est très méthodique, Abravanel. Donc il dit le roi, il a trois avantages, il possède trois avantages. Le premier, alors il cite ça selon les philosophes, Aristo, Véchavérab, Aristote et ses copains. Les trois avantages qu'il cite, c'est au niveau du pouvoir, bien sûr, c'est l'unité, la continuité et Ayecholet Amokhlat, le pouvoir absolu. Le roi possède ce triple avantage. Et ces contre-arguments vont être que finalement, l'unité du pouvoir, d'accord, il y a une personne qui décide, mais finalement, est-ce que c'est tellement mieux que si c'est un groupe de personnes qui arrivent à un consensus? Peut-être que si j'ai un groupe de personnes qui arrivent à un consensus, je peux aussi avoir une décision et qui sera sûrement meilleur, puisque les philosophes l'ont dit et la Torah l'a dit, Yachid verabim al-hak erabim. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un quand il y a un débat entre les chachamim et qu'il y en a un qui est tout seul et que d'autre côté ils sont plusieurs, on fixe l'alakha comme les plusieurs. Pourquoi? Parce que à plusieurs on arrive plus facilement à la vérité que tout seul. Donc il dit finalement qu'est-ce qui fait que c'est tellement mieux d'avoir une personne qui décide? Finalement, si on a un groupe de personnes qui décident, peut-être que c'est mieux, peut-être qu'on arriverait à une décision qui est meilleure. Après on parle de continuité du pouvoir. Finalement, peut-être que c'est mieux d'avoir des gens qu'on renouvelle. Les dirigeants, on les renouvelle tous les X années. Or lui il a connu ça, il y avait déjà des républiques à l'époque. On renouvelle les dirigeants et en plus ce qui est la beauté de l'affaire, c'est que un dirigeant, quand il est nommé pour quelques années, il ne fera pas des grosses bêtises. Parce qu'en fait, il aimerait bien que derrière, eh ben, on le réalise. Et donc finalement, la continuité peut se faire par le renouvellement des dirigeants. Et le troisième avantage, le troisième attribut qu'il avait donné au roi, c'était le pouvoir absolu. Et là, il dit, ben ça, il n'y a rien qu'à ouvrir les yeux, c'est mauvais. C'est ce que j'ai mis dans la page 9. Il dit, habitur ou, il suffit de regarder. Alors lui, il avait connu le Portugal, il avait connu les rois catholiques en Espagne, il a vu à quoi ça menait. Et il dit, il suffit d'ouvrir les yeux de voir qu'en fait, le roi, forcément, à un moment donné, il tombe dans la tyrannie et il devient mauvais pour son peuple parce qu'il a pas de contre-pouvoir. Donc à un moment donné, il tombe du mauvais côté de Don Paolo. Et donc il donne plein d'exemples. Il parle de Rome, il dit que la Rome de l'époque des consuls, c'était une Rome qui fonctionnait bien, et puis dès qu'il y a eu les Césars, alors c'est parti à volo. Et ensuite il parle des républiques de son époque, des républiques en Italie qui fonctionnaient avec un système de Sénat et de Conseil, de groupes de personnes qui étaient, alors est-ce que c'était des vraies élections, en tout cas il y avait c'était des groupes de personnes qui dirigeaient ensemble et qui avait une armée, qui avait une justice, qui avait une police, donc qui gérait correctement leur république, leur territoire, et que ça se passait bien. Il y avait même des territoires qui pouvaient s'étendre, il y avait des guerres qui allaient à l'extérieur. Donc il cite Venise, Florence, Gênes, etc. Toutes ces républiques qu'il y avait à l'époque en Italie. Et il arrive à la conclusion que le système monarchique n'a rien d'indispensable. Puisqu'on le voit, en tout cas à son époque, il dit, moi je vois que ça peut très bien fonctionner sans roi. Donc ça c'est la première introduction. Deuxième introduction, c'est, maintenant on regarde chez les juifs, hein, chez Israël. Chez Israël, est-ce que le roi c'est bénéfique? Et donc là, pareil, très méthodique, quelles sont les fonctions du roi? Le roi, selon Abravanel, a trois fonctions. Il défend son peuple. Il protège son peuple, il va légiférer, c'est lui qui va créer les lois pour que ça se passe bien sur son territoire. Et il va avoir un droit un petit peu étendu par rapport, c'est qu'il va pouvoir gérer des urgences. S'il faut punir quelqu'un de manière exemplaire parce qu'il faut qu'il gère un peu son peuple, alors il aura ce droit-là. Voilà comment Abravanel définit les fonctions du roi. Il dit, si je prends ces fonctions-là et je regarde d'un point de vue juif, eh ben, on va voir que c'est d'autres personnes qui les ont. Et on n'a pas besoin de droit. Défendre, faire la guerre. Alors, il y a une flopée de versets dans le Tanakh qui présente Hachem comme celui qui fait la guerre. Hachem, ilachem lachem. Ki ou anilacham lachem. Voilà, le pasouk que lui rapporte. Ki ilach lifneem Hachem, ve ou anilacham lachem. C'est Hachem qui fait la guerre. C'est Dieu qui fait la guerre pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir un roi pour faire la guerre. C'est Dieu qui fait la guerre. Le deuxième fonction du roi, c'est de rédiger les lois, c'est de légiférer. Nous, on a la Torah. La Torah. Torah, Tzivalanu, Moshe, Morasha, Akilat, Yaakov. C'est la Torah. Et on sait très bien qu'on n'a pas le droit de toucher la Torah. La Torah est immuable. Il est écrit... il ne faut pas rajouter, il ne faut pas enlever l'autosif, l'otigra, l'autosifou, l'otigréou, mais nous, on ne peut pas ni rajouter une loi, ni enlever une loi, tout est là, tout est dans la Torah. Et donc, on n'a pas besoin de roi pour fixer les lois. Troisième fonction que Abraham dit.
En ce sens, il rejoint ce que dit le Rambam.
C'est-à-dire
le roi ne s'occupe pas de religion.
Le chauffette.
C'est l'apanage.
Exactement.
Il ne demande pas de roi du tout. Pardon ? Mais Abravanel, il ne demande pas de roi du tout. Oui, il a plus loin, mais.
Et troisième fonction du roi, c'était de punir et de gérer les situations d'urgence. Il dit ben ça, il y a le chauffette, ou il y a le Beddin. La Gemara dit Beddin, Makin veochin kadin vechelo kadin. Le bedin frappe et punit comme selon la loi et comme pas selon la loi. C'est-à-dire qu'il y a, on peut aller au-delà de la loi s'il y a besoin de si le bedin décide qu'il y a besoin d'aller plus loin, il peut le faire. En tout cas, on lui donne ce droit-là. Donc la on a prévu chez nous quelqu'un qui fait ça. C'est pas le roi, c'est le bedin ou c'est le chauffette ou même la Gemara dit que si jamais le bedin a raté quelque chose, par exemple il y avait un vice de forme, ou par exemple on n'a pas pu, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé, ou ils se sont trompés dans le jugement, la Gemara dit c'est Dieu qui s'en charge. Et on dit Chayav Mita Bidei Shamayim. C'est la punition, c'est Dieu qui va s'en charger. Si jamais les hommes n'ont pas pu, c'est Dieu qui s'en charge. Et donc, et après, bon, évidemment, il ramène plein de preuves encore dans les Psukim. Mais
où se trouve l'urgence? J'arrive pas à comprendre. En cas d'urgence, où est l'expression?
Ah, l'expression qui dit c'est. Ouais. Alors peut-être que j'ai mal traduit, mais c'est dans la page 9. À Dibour Hacheni, 2, 4, 6, 8, 9e ligne. À Inyan Hashlishi, 3e fonction du roi. Ou les akot ou les anish peamim shelo kadin, c'est de frapper et de punir des fois, même quand c'est pas la loi, comme la loi, kefit tzorech hashar, comme en fonction de
des nécessités.
Voilà. Ça c'est ce qu'il appelle le pouvoir absolu, c'est ce qui rentre dans l'un des attributs qui était le pouvoir absolu. Il va utiliser, c'est à ce moment-là qu'il va utiliser ce pouvoir absolu pour pouvoir punir qui il faut quand il le souhaite. Conclusion, il n'y a pas besoin de droit. En général. Et il n'y a pas besoin de droit. Et même s'il y avait. Et même s'il y avait besoin d'un roi pour toutes les nations, pour Israël, il n'y a pas besoin de roi.
Mais il a développé, s'il y a un roi, est-ce qu'il peut faire ça?
Non, il ne serait pas. Non, la Torah a donné des droits. Après, c'est il n'y a pas de issour d'avoir un roi. La Torah a...
Après, quels sont ses droits au roi, au cas?
Non, il ne traite pas ça. Et donc, c'est maintenant qu'il arrive à expliquer la contradiction qu'on a entre ce qu'il y a dans la Torah et ce qu'il y a dans Shmuel. Et ça, je veux bien dire avec vous au moins quelques lignes. C'est tout en haut de la page 11. Il dit les dati, selon moi. Il va expliquer maintenant, finalement, pourquoi. Finalement, quel est le guédère, quel est la, comment cadrer, circonscrire la mitzvah du Minouya Meler, d'une part. Et comment comprendre que Shmuel, ça ne lui plaisait pas ce qui se passait. Enfin, qu'on puisse arranger ça. Et il dit, les dati chez Beacharit Hayami, c'est que, à la fin, enfin, après quelques temps, Acharé Eyot Israël Baaret, une fois qu'Israël est dans sa terre, Virachua, Viachbouba, Bemilchemet Hashem Aleem, et qu'ils vont l'hériter, qu'ils vont s'installer dans une guerre d'Hachem avec Hachem avec eux, ils vont se trouver être kfouye tova, c'est-à-dire ingrats. Ils vont être ingrats. Bechehem ishalou, parce qu'ils vont être ingrats quand ils vont demander chez le letzorer, sans nécessité, limloch alem mener, qu'on mette un roi sur eux. L'homme ipeata echer, pas parce que c'était nécessaire. Ki im les ishtavot imaumot, c'est seulement pour ressembler aux nations qui, elles, à Mamnichim, Alem, Menachim, qui, elles, mettent sur elles des Menachim. Je saute quelques lignes et j'arrive à la Vecha Asher, là, j'ai surligné le début, Vecha Asher, Ikarezé. Et lorsque ça se passera, donc qu'on va arriver et qu'on va demander, alors Tivaït Barach, alors. Hachem a ordonné chez l'eau Yamlichu Amalir Khersonam. À ce moment-là, ok, on y est. Vous êtes ingrat. Vous voulez un roi. Alors je vais vous donner des règles. Si maintenant vous voulez un roi, alors Loyam lichu ameler kirsonam. Vous ne faites pas comme vous voulez. Ce n'est pas vous qui définissez les critères du roi. Ki im asher yifrar Hashem lokechem bo, c'est seulement quelqu'un que Hashem aura choisi, mikerev acheem, de parmi leurs frères, vezoi amitzvah be'etzem ve'emet. Et c'est ça la mitzvah be'etzem, dans le principe, ve'emet et dans la vérité. C'est-à-dire que la mitzvah de Miloui Ameler, c'est une mitzvah de comment ça doit se passer. Mais c'est pas obligé que ça se passe. C'est pour ça qu'il va dire quelques lignes plus loin, Teluya bidvar arechut. C'est une loi qui est optionnelle. C'est-à-dire, si jamais vous êtes mauvais, finalement, si jamais vous êtes ingrat, parce que finalement vous voulez plus être dirigé directement par Dieu, et que vous voulez ressembler à tout le monde, alors à ce moment-là, moi je vais vous mettre une mitzvah qui est comment ça doit se passer. Le roi doit être comme ça, il doit être comme ça, etc. etc. Velo yarvelo soussim, il y a des règles à suivre. Et pour appuyer cette lecture-là, il va apporter deux exemples connus. Le premier exemple, c'est l'exemple de Eshet et Fatoa, la femme captive. Et là-bas, on a aussi un langage textuel qui ressemble. Il écrit « Kitetse la milchama » quand tu sortiras en guerre, « Veraïta bashivia Eshet et Fatoa » et tu verras. D'accord. Et chez nous, c'est pareil. « Kitavo la retz ver Martha » Il n'y a pas de mitzvah de dire. Il n'y a pas de mitzvah de demander. De même qu'il n'y a pas de mitzvah d'aller voir une femme captive. Mais si jamais tu la vois et que tes pulsions sont trop fortes et que tu n'arrives pas à te maîtriser et que tu veux absolument la prendre pour toi, alors on donne des règles. Il faut que tu la fasses entrer chez toi, que tu laisses pleurer pendant, etc., etc. C'est un exemple de loi optionnelle. On n'a jamais demandé aux militaires qui vont faire la guerre de prendre des femmes captives. C'est si jamais, comme le bon Dieu, il connaît la nature humaine, il connaît la faiblesse de l'être humain, il sait qu'il va, peut-être qu'il succombera, alors je te donne un cadre pour cadrer ce qui va se passer. C'est pareil quand on rentre en Israël. Il faut nommer un roi. Il faut pas nommer un roi, c'est pas la peine. Mais si jamais t'es trop faible pour dire moi je veux un roi comme tout le monde, alors à ce moment-là, tu pourras nommer un roi, mais voilà comment ça va se passer. Autre exemple encore plus marquant, c'est que la paracha qu'on lit à Tisha B'Av, « Kitulit banim ou vene banim », là-bas on dit, quand tu enfanteras des enfants et que vous fauterez, vous ferez des fautes, alors, « Veshavta ad Hashem lokecha », à ce moment-là, tu feras tshuva, tu feras repentance. Évidemment qu'il n'y a pas de mitzvah de fauter. Mais si jamais tu as fauté, alors tu as la mitzvah de teshuva. D'accord. Donc on espère tous n'avoir jamais besoin de faire teshuva, mais comme l'être humain est faible et qu'il faute, alors on a la mitzvah de teshuva. Pareil pour le roi. Et donc voilà l'argumentaire de Abravanel. Et après encore, je sais pas si je peux encore déborder un petit peu, mais il va démontrer, parce que comme le Ramban par exemple dit qu'il y a une mitzvah de nommer, de demander un roi, le Ramban va jusque là pour dire qu'il y a une mitzvah de demander un roi, il va démontrer que par 5 réfutations, qu'il n'y a pas de mitzvah de demander un roi, c'est sûr. Et que c'est seulement une description d'une situation qui fait que derrière, on peut nommer un roi. Mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de mitzvah de Véa Martha à Simal. Il n'y a pas de mitzvah. Il démontre en cinq points. Cinq points, c'est, je dis rapidement, premier point, c'est finalement, s'il y a une mitzvah, à quoi elle sert cette mitzvah, finalement. Pourquoi est-ce qu'il faut demander un roi? Alors, je crois qu'il y avait avec les mecs d'Avar, peut-être qu'on peut répondre, mais à quoi ça sert, quoi? C'est quoi cette mitzvah de demander? Deuxièmement, si jamais il y a une mitzvah de demander, alors demande un roi comme les peuples, mais depuis quand on a des lois qui nous demandent à être comme les peuples? Au contraire, en général, toutes les lois de la Torah, c'est pour pas qu'on ressemble aux goyim. Pourquoi tout d'un coup tu as une mitzvah de faire quelque chose comme les goyim? C'est quelque chose qui sort d'ordinaire. Troisièmement, on a vu que la Gemara, quand elle dit il y a trois choses que les Bnisraël ont eu comme mitzvah en rentrant, c'est les Ahamid d'Alem Meler. Il n'y a pas écrit Lishol, la Emmener. Il y avait fini. La première mitzvah, si vraiment il y avait une mitzvah d'abord de demander et après d'avoir, Alors la première chose à demander, la première mitzvah à faire en rentrant en Israël, c'est pas de nommer un roi, c'est de demander un roi. Quatrième, il en profite pour dire à ce moment-là que c'est marrant comment il parle, parce que il parle de Rabbi Nechemia. Donc Rabbi Nechemia, c'est l'équivalent de Rabbi Nehoraï qu'on a vu au début. Rabbi Nehoraï qui dit qu'en fait, cette mitzvah n'a été donnée lo ne'emra par Hachazo. Et là, Keneged Tarumtan, c'est seulement contre le tumulte, contre les récriminations et les plaintes. Et donc il dit, c'est marrant, il dit, iné kiven chacham azel edati. Il a pensé comme moi. En général, on dit Baruch Shekiven, mais il a pensé comme moi. Ça, c'est drôle. Mais... Oui, lui, il a besoin d'un. Il a quand même. Il s'oppose à tous les Rishonim. Il faut bien qu'il trouve quand même un appui quelque part, parce que c'est. Et il trouve cet appui chez Rabbi Nechemia ou chez Rabbi Nehoraï. Quatrième preuve, c'est que Avi l'a mentionné tout à l'heure. Il y a des gens qui ont compté les mitzvot. Alors il y a les minyan à mitzvot. On compte 613 mitzvot et après à chaque fois c'est le jeu d'arriver à 613. Alors il y en a qui comptent pas celle-là, il y en a qui en comptent. En tout cas, si jamais on disait qu'il y avait une mitzvah de demander un roi, alors normalement on devrait avoir une mitzvah assez, demander un roi. Or personne ne compte une mitzvah de compter un roi. Les gens, il y a tout le monde qui a la mitzvah de Minui Yameler, mais il n'y a personne qui dit, donc ça veut dire que c'est en même temps, c'est la même mitzvah. En tout cas, ça rentre dedans. Et enfin, évidemment, la question qui nous avait amené ici, c'est si vraiment il y avait une mitzvah de demander un roi, qu'est-ce que Shmuel leur reproche? Donc c'est comme ça qu'il arrive à résoudre cette contradiction. Finalement, il n'y a pas de mitzvah absolue d'avoir un roi, c'est une mitzvah qui est conditionnée, qui est optionnelle. Et c'est pour ça que finalement Shmuel, ça lui plaît pas cette histoire. Ah, vous êtes tombé, vous avez été faible, ça lui a pas plu. Et c'est comme ça qu'il arrive à arranger cette contradiction. Après, il pose une dernière question. Et j'ai pas bien compris sa réponse. La question qu'il pose, c'est finalement si le roi c'est mauvais, une fois que Shaoul a été écarté, pourquoi Hachem a nommé David, et non seulement il l'a nommé, mais en plus il lui a donné une meloucha de père en fils, héréditaire. Si vraiment c'est mauvais, alors que vient faire David dans l'histoire? Et donc il répond de manière très longue dans la dernière page. Et ce que j'ai compris, c'est que il dit d'abord que c'est pas interdit d'avoir un roi, c'est pas interdit. Il n'y a pas de issour d'avoir un roi, c'est juste que voilà, c'est. Et bon, maintenant que le peuple est tombé, qui sent qu'il a besoin d'un roi, et que maintenant, grâce à Shaoul, il a compris que finalement le roi, c'est pas lui le roi, mais le roi c'est qui Hachem Elokechem Malkechem, comme il leur dit. Ils ont compris qu'en fait le roi, le vrai roi, c'est pas le roi qui dirige, c'est le roi. Alors c'est pour ça que maintenant on peut se permettre de nommer un roi David et qui va diriger. Voilà un petit peu le Abravanel. Et alors quand on termine Abravanel, on peut se demander, ok, le roi c'est pas le bon mode de gouvernement, mais d'après Abravanel, quel est le bon mode de gouvernement, quel est le mode de gouvernement idéal? Il répond pas ici, mais il a l'air de dire en tout cas que je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre séminaire, mais il a l'air de dire en tout cas que ce qui lui plaît, c'est la République. Il a l'air de défendre cette idée et de. Voilà.
Merci beaucoup pour cet excellent travail.
Juste un mot sur le Pablo de Bourgogne. Des éléments d'histoire, hein, ça n'affecte pas, je ne connais pas très bien Abravanel, mais Abravanel a été critiqué violemment par un historien moderne.